ouvrir la parole de Dieu. Je le disais en introduction tout à l'heure, la Bible c'est un livre formidable, c'est la parole de Dieu, divinement inspirée. Voilà, quand nous lisons les Écritures, c'est Dieu qui nous parle et nous voulons laisser le soin à cette parole divine de nous interpeller ce matin. Bonjour à tous et à chacun, peut-être à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Que le Seigneur soit béni et je le répète, si vous êtes parmi nous pour les premières fois, soyez spécialement les bienvenus, chers amis. Voilà, nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Matthieu, s'il vous plaît, tout d'abord. Matthieu, chapitre 26 et le verset 17. Voilà, Matthieu, chapitre 26, verset 17. Il est écrit ceci, « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Et puis au verset 26, un petit peu plus loin, il est dit ceci, « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Et puis nous compléterons par une autre lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11 et à partir du verset 23. Voilà, le chapitre 11, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts si nous nous jugions nous-mêmes. Nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Voilà, nous avons l'habitude, pratiquement tous les dimanches, de lire ce texte qui concerne l'institution de la Sainte Cène. Sainte Cène qui a été donc instituée par le Seigneur Jésus. Et je crois qu'il est bon, de temps en temps, d'en rappeler l'importance de la Sainte Cène, d'en rappeler sa signification, les bénédictions qui y ont attaché, alléluia, parce que c'est une occasion de recevoir la bénédiction de Dieu, mais aussi rappeler les conditions qui sont requises par la parole de Dieu, pour y participer à la Sainte-Cène valablement. Alors, tout d'abord, ce que nous remarquons, c'est que c'est à l'occasion de la célébration de la Pâque juive que Jésus a institué la Sainte-Cène. Parce que nous devons nous rappeler que, c'est vrai, avant de devenir une fête chrétienne, n'est-ce pas, la fête de la résurrection du Seigneur Jésus, la Pâque était une fête juive. Et il y a une relation entre les deux événements. La Pâque juive, c'était l'occasion pour les juifs, ça l'est encore d'ailleurs chaque année, de commémorer la délivrance de l'esclavage. Voici les faits. Le peuple d'Israël était esclave depuis 4 siècles, et même un petit peu plus, en Égypte. Et Dieu est intervenu pour arracher cette nation, ce peuple d'Israël, à l'oppression sous laquelle il se trouvait, n'est-ce pas ? Et Dieu a envoyé Moïse, et par l'intermédiaire de Moïse, eh bien, toutes sortes de cataclysmes, de plaies sont venues frapper les Égyptiens qui ne voulaient pas relâcher leur étreinte sur le peuple d'Israël. Et malgré l'intervention de Dieu, eh bien, Pharaon, le roi d'Égypte, s'endurcissait, s'entêtait et maintenait sa position. Alors Dieu a dit, eh bien, je vais frapper un grand coup. Ce sera le dernier. Après cela, eh bien, Israël sera libéré. Et voici que Dieu a ordonné, n'est-ce pas, que les Israélites, le soir, la veille au soir, prennent un agneau, ils l'égorgent, ils recueillent son sang et ils encadrent la porte d'entrée de leur demeure avec le sang de l'agneau pascal qui avait été offert en sacrifice. Et chacun devait, eh bien, s'enfermer à double tour dans sa maison. Et au cours de cette nuit mémorable, l'ange de Dieu est passé dans le pays d'Égypte. Et ce fut terrible, parce que dans toutes les maisons des Égyptiens, l'aîné de la famille était frappé de mort. Mais le fait est que chaque fois que sur sa route, l'ange destructeur rencontrait une maison sur laquelle il y avait la marque du sang de l'agneau, les gens qui étaient à l'intérieur étaient protégés, étaient préservés et n'étaient pas frappés par la plaie qui frappait les Égyptiens. Le sang de l'agneau sacrifié a ainsi permis aux enfants d'Israël d'être préservés du châtiment qui frappait les Égyptiens. Et pour nous, mes amis, nous avons aussi affaire à un agneau. Alléluia. La Bible dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et par l'offrande de son sang, les pécheurs qui croient en lui, sont pardonnés, sont sauvés, sont épargnés et échappent ainsi au châtiment pourtant mérité. Nous sommes des pécheurs, le savez-vous cela ? Nous devons prendre conscience de cette vérité, même si parfois il y a chez bien des êtres humains une certaine prétention, une certaine illusion. Les gens se justifient facilement en disant « Oh, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, ça va bien comme ça ». Mais non, mes amis, ça ne va pas bien comme ça. Parce que l'Écriture dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché mérite une sanction majeure. L'Écriture dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais voici que Christ est venu, et lui qui était sans péché, il a pris à son compte nos péchés. Et là-haut, sur la croix du calvaire, il a subi à notre place, il faut le redire encore ce matin, le châtiment, la condamnation que nous méritions. De telle sorte que par la foi en lui, nous obtenons la miséricorde, nous obtenons le salut, nous obtenons la vie éternelle. Il n'y a plus de condamnation, nous dit la Bible, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez-vous, ce salut, c'est le résultat de la seule grâce de Dieu reçue par la foi. Je ne mérite pas le pardon, je ne mérite pas le salut de mon âme. Si je puis un jour entrer dans le royaume de Dieu, dans le ciel, ça n'est pas parce que j'aurais accompli quelque exploit majeur, mais parce que Dieu m'a fait grâce, parce que Dieu nous fait grâce. Et si ce matin, quelqu'un n'a pas encore reçu la grâce de Dieu, c'est le moment, mes amis. Tout à l'heure, dans le temps de prière que nous aurons encore, humiliez-vous devant le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je comprends que tu as souffert, que tu es mort pour mes péchés sur la croix. Alors sauve-moi, pardonne-moi, et par ton sang précieux, eh bien, purifie mon cœur de tout péché, de toute faillite morale et spirituelle et il vous fera grâce. La Sainte Cène, revenons à ce thème, c'est une commémoration. Jésus a dit, nous l'avons lu là dans la première aux Corinthiens, n'est-ce pas ? Faites ceci en mémoire de moi. Et il faut insister sur ce fait, en mémoire de moi. Le sacrifice de Jésus a été un sacrifice unique, car c'était un sacrifice parfait. Et à ce titre, il a en permanence une valeur absolue. Jésus est mort une fois pour toutes. Jésus s'est sacrifié une fois pour toutes. Lorsque nous considérons la manière dont les choses se passaient dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, eh bien, on s'aperçoit que les sacrifices que les Israélites devaient offrir, selon la loi de Moïse, étaient constamment répétés. Pourquoi ? Parce que ces sacrifices-là, offerts dans l'Ancien Testament, ne pouvaient pas réellement ôter les péchés. Tandis que la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce que Dieu nous offre, c'est un pardon total, c'est une purification définitive et c'est aussi une purification constante. Vous savez, dans le monde religieux, tout au moins dans une partie du monde religieux, il y a cette doctrine qui consiste à dire que lorsque l'officiant présente les éléments à Dieu, le pain devient littéralement le corps de Jésus et le vin devient littéralement le sang de Jésus. Mais cette doctrine est absolument erronée. Non, non, non. Le pain et le vin ne constituent là que des symboles du sacrifice de Jésus. La présence du Seigneur, certes, elle est réelle, mais il s'agit non pas d'une présence matérielle, mais d'une présence spirituelle établie sur la base de la foi dans la valeur de son sacrifice, de son sang versé et de son corps brisé à la croix du calvaire. La présence de Jésus lors de la Sainte Cène est une présence spirituelle et non matérielle. Lorsque nous participons au repas du Seigneur, eh bien, sa vie divine, sa vie spirituelle se répand en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sommes ainsi renouvelés dans notre être intérieur et capables, rendus capables par sa grâce, de vivre comme il a vécu lui-même. Cette commémoration, c'est aussi une occasion de rendre grâce. Certains appellent la Sainte Cène l'Eucharistie, qui signifie littéralement action de grâce. Qu'est-ce que c'est que l'action de grâce ? C'est exprimer notre reconnaissance à Dieu, pour ce salut qu'il nous accorde en offrant son propre Fils en sacrifice sur la croix du calvaire. Ce matin, je suis là, et vous aussi, pour dire merci Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli en ma faveur. Quel sacrifice, quel amour, quelle puissance se dégage de cet événement. Quel grand salut dont nous avons hérité, n'est-ce pas ? Et je crois qu'il faut que nous souvenions de ce fait. Vous voyez, nous sommes pris, vous et moi, dans les activités quotidiennes. Et Dieu sait que la vie aujourd'hui est fort compliquée. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de situations auxquelles nous sommes confrontés. Nous courons à droite, nous courons à gauche. Il y a beaucoup de responsabilités à assumer dans le cadre professionnel. Il y a la vie famille, il faut s'occuper des enfants, il faut, n'est-ce pas, eh bien, régler notre vie matérielle, nos finances et tout cela. Et ces choses-là ont leur valeur, ont leur importance, certes. Mais parfois, si nous n'y prenons pas garde, eh bien, nous oublions l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'Écriture nous dit que notre cité à nous est dans les cieux. Vous pensez à ça de temps en temps ? Vous pensez au ciel ? Vous pensez à ce moment glorieux où enfin le Seigneur vous accueillera dans son royaume éternel ? Oh, alléluia, hein ? C'est là l'objectif qui doit être devant nos yeux, voyez ? La Bible dit à propos de Moïse, tiens, ça me vient à l'esprit cette idée, que il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse était un prince en Égypte. Et voici que prenant conscience qu'il était en fait membre du peuple d'Israël, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé au privilège de sa fonction, de sa position princière, pour se mettre au rang d'un peuple d'esclaves. Et la Bible dit qu'il fit cela, il fit ce choix. Il renonça aux gloires de l'Égypte parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Je veux avoir les yeux fixés sur la rémunération. Je veux penser au ciel. Je veux penser à la place que Dieu m'a préparée auprès de lui. Je veux penser à ce jour béni où enfin je pénétrerai dans sa présence et il m'accueillera. Un vieux cantique dit, les portes d'or s'ouvriront. Alléluia. N'est-ce pas? Et tous ensemble, nous entrerons dans le paradis, le royaume de Dieu. Voyez, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte de fées pour grandes personnes. C'est une glorieuse réalité. Jésus nous a parlé du ciel. Il est venu souffrir sur la croix pour nous offrir le ciel en partage. Et ce matin, nous nous souvenons en participant à la Sainte-Cène que, au travers de son sacrifice, nos péchés peuvent être pardonnés et ainsi les portes du royaume des cieux nous être grandes ouvertes un jour. Alléluia. Et je veux m'attacher à cet héritage, voyez. C'est ma richesse, c'est ma gloire, c'est tout le sens de ma vie. Voyez, on peut s'intéresser aux choses de la vie, mais ces choses sont tellement fugaces, tellement fragiles, tellement éphémères, tellement passagères. On ne veut pas courir après le vent. On veut vivre sur des bases solides et sûres. Jésus n'a-t-il pas dit, n'est-ce pas, que celui qui bâtissait sa vie sans cette espérance chrétienne, il est comme un insensé qui construit une maison sur le sable. Et lorsque la tempête vient, eh bien la maison s'écroule parce qu'elle n'a pas de fondement. Et au contraire, il dira que celui qui, eh bien, bâtit sa vie sur l'espérance du salut, sur la certitude de la vie éternelle, celui-là, c'est un homme sensé, prudent, intelligent. Il a bâti sa maison en la posant sur le roc, en la posant sur un fondement solide et sûr. Alors, c'est vrai, l'épreuve ne l'a pas épargné. Mais la maison est restée debout parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Nous pouvons être frappés, nous le sommes, par l'épreuve. Vous en savez quelque chose, beaucoup d'entre vous, et moi aussi, mes chers amis, tout au fond de notre cœur, envers et contre tout, il y a cette certitude. Un jour, je serai avec Jésus dans le ciel. Et ce matin, c'est de ça dont je veux me rappeler, en participant à la Sainte-Cène. Je ne suis pas venu pour, excusez-moi, prendre un petit casse-croûte, un morceau de pain, et puis une lampée de vin. Mais je suis venu pour dire, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Alléluia. Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis étonné de ce que la grâce, en quelque sorte, me soit tombée dessus. N'est-ce pas? Lorsque je vois combien le cœur de beaucoup de gens sont fermés, n'est-ce pas? Comme les gens sont hostiles aux choses de Dieu, encore ces jours-ci, tenez, lorsque nous avons appelé à mon chevet un médecin parce qu'il y avait des problèmes, on a essayé de lui dire quelques mots. L'évangile, la bonne nouvelle, Dieu vous aime, tenez. Non, il a balayé tout ça d'un revers de main, voyez. Non, ça n'existe pas. Non, c'est une légende. Non, je ne veux pas y croire. Que c'est terrible d'avoir le cœur fermé ainsi. Mais béni soit Dieu, parce que votre cœur et le mien ont été touchés. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas meilleur que notre. Il y a en moi tous les ingrédients pour que je sois capable de faire, mais oui, c'est vrai, les pires choses. Mais Dieu m'a fait grâce. Il est venu vers moi. Sa parole m'a travaillé, voyez. Ah, il y a eu ces temps où, dans ma jeunesse, dans mon adolescence, j'étais attiré par le monde, par ses plaisirs, par ses jouissances. Mais là, au fond de mon cœur, il y avait la parole de Dieu. Et béni soit le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui gagne la partie. Je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Je suis en route vers le ciel. Ce matin, je veux lui dire merci. Alléluia. Je veux lui dire merci. Tout à l'heure, en prenant le pain, le vin, je veux dire, Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai rien mérité. Tu as tout accompli pour moi. Ton sang a coulé pour mes péchés sur la croix, pour le misérable que je suis, pour l'homme infect, pour ce cœur tortueux, pervers qui est le mien. Tu as donné ta vie en rançon. Tu as expié mes fautes. Tu t'es livré à la mort la plus ignominieuse qui soit. Ton corps a été tordu par la douleur. Ton sang a été versé. On t'a frappé, on t'a flagellé, on s'est moqué de toi. On t'a crucifié. Tu as agonisé pendant des heures. Tu l'as fait pour ouvrir le ciel. Je veux te dire merci. Alléluia. C'est ça la Sainte Cène. Oui ou non? Ce n'est pas une petite cérémonie religieuse, hein, de gens qui font preuve de bigoterie. C'est l'expression de notre reconnaissance. On dit merci au Seigneur. On exprime notre reconnaissance. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir de plus? On lui doit tout. La seule chose qu'on puisse lui apporter, nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est notre reconnaissance, notre action de grâce. Au moment où nous prenons la Sainte Cène aussi, il faut se rappeler de ça quand même, nous exprimons notre communion avec nos frères et sœurs. Ça n'aurait pas de sens si là, dans ma cuisine ou dans la salle à manger, je m'étais dit ce matin, eh ben, non, je ne veux pas voir les autres, je vais faire mon petit truc à moi. Un morceau de pain, hein, une coupelle de vin, puis ça ira. Non, la Sainte Cène n'a de signification que lorsqu'elle est prise en commun. Avec des frères, des sœurs, dans la foi, avec des hommes, des femmes, de toutes conditions, de toute origine, qui ont ceci de commun, c'est que Jésus est devenu leur sauveur. D'ailleurs, hein, la parole de Dieu nous le dit dans la première aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 17, voici, il y a une allusion à la Sainte Cène, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, dit Paul, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Le corps dont il est question ici, c'est le corps de Christ, l'Église. Jésus en est la tête, et nous en sommes les membres. Et vous avez remarqué que dans votre corps, et dans le mien, on ne peut pas dire il y a un membre qui est... Il ne sert à rien. Il est là, mais c'est comme s'il n'y était pas. Non. Tous les membres du corps sont non seulement nécessaires, mais indispensables. Vous savez, il y a ce slogan qui dit « Personne n'est indispensable ». Eh bien, c'est faux. Dieu a estimé, en vous incluant dans l'Église, que vous étiez indispensable au fonctionnement de son corps. Nous sommes tous indispensables. Nous sommes tous indispensables. Dieu l'a voulu ainsi. Et ce matin, en participant à la Sainte Cène, nous exprimons notre communion fraternelle. Cette communion, elle doit être réelle et non pas entachée par des ressentiments, par de la rancune, par de la jalousie, par de la médisance, par des sentiments ou des propos que le Seigneur ne pourrait accepter. Nous sommes des êtres humains, nous le restons. Et c'est vrai que nous avons souvent besoin de nous faire grâce. Un serviteur de Dieu, qui a un ministère remarquable, disait ceci, je vais vous prophétiser deux choses. Enfin, prophétiser. Il disait, aussi gentil que vous soyez, un jour, dans l'église, quelqu'un vous blessera. Mais il ajoutait, je vais vous prophétiser autre chose. C'est que aussi gentil que vous soyez, un jour, vous-même, vous blesserez quelqu'un d'autre. Et la communion fraternelle, eh bien, ça consiste à savoir encore, et encore, et encore, et encore, frères et sœurs, se pardonner. Jésus n'a-t-il pas dit 70 fois? 7 fois. Faites le compte. Ça veut dire aussi souvent que nécessaire. Et là, devant la Sainte Cène, il faut prendre la résolution de se dire, c'est le moment de se pardonner. Et c'est le moment, peut-être même et sûrement, de se réconcilier. Hein? Un frère nous racontait ceci un jour, vous avez remarqué? Dans les familles, souvent c'est le dimanche matin que ça explose. Hein? Là, j'aimerais remarquer ça, que... Des fois, il y a des soucis, là, juste au moment où on s'apprête à aller à la réunion. Alors, un frère et une sœur, je ne sais pas pourquoi, ça ne me regarde pas, avait eu un couple, là, un couple chrétien, des mots avant le culte. Ça ne vous arrive pas, vous, mais ça leur est arrivé. Alors ils sont arrivés à l'église, ils étaient tellement fâchés que lui s'est assis là-bas et elle là-bas. Et puis le culte a commencé. Le culte a commencé, je t'adore et je te loue. Et les autres adoraient. Et les autres louaient. Mais là, dans leur cœur, silence radio. Hein? Vous connaissez ça? Quand l'esprit est attristé. Quand l'esprit est attristé. Les autres louaient, les autres adoraient, mais eux, chacun, ils étaient dans leur coin seulement. Elle était là-bas et lui ici. Alors, l'un a levé la tête, puis il a regardé en direction de son épouse, et puis au même moment, elle a levé la tête. Elle a regardé en direction de son mari. Il n'y a pas eu de mots, mais simplement un sourire. C'était pour dire, je te demande pardon. Et tout à coup, hein, la barre là sur le cœur, la barrière, elle s'est levée. Et la communion est revenue. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut qu'il se produise, pas seulement entre mari et femme, entre frères et sœurs, dans la foi. Avoir cette humilité. Cette humilité de se dire, je te demande pardon. Et aussi, je te pardonne. Et c'est comme ça que la Sainte Cène, elle prend une signification particulière, voyez ? Ah, c'est important ça. La Sainte Cène, c'est encore le signe que nous entrons dans une nouvelle alliance. Amen. Jésus a inauguré la nouvelle alliance en disant, buvez-en tous de cette coupe. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'ancienne alliance, celle de la loi. Et dans cette ancienne alliance, vous le savez, les commandements de Dieu étaient écrits sur des tables de pierre, là-haut sur le Sinaï. Moïse avait reçu les tables de la loi, Dieu lui-même, de son écriture, c'est extraordinaire. De sa propre main, du doigt de Dieu, les 10 commandements avaient été rédigés sur des tables de pierre. Mais la preuve a été faite, au travers de l'histoire d'Israël, que l'homme est incapable d'obéir par lui-même au commandement de Dieu. C'est une chose de savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu commande, ça n'est une autre que de pouvoir mettre en pratique ce qu'il ordonne. Et la preuve a été faite que l'homme, parce qu'il est mauvais, pervers par nature, est dans une incapacité absolue d'obéir aux exigences de la justice divine. Alors, puisque cette alliance est caduque, qu'elle n'a rien amené à la perfection, elle a été abolie. Et Dieu nous parle d'une nouvelle alliance, dans laquelle désormais les commandements de Dieu ne sont pas écrits sur des tables de pierre, mais sont inscrits dans notre cœur. Vous savez que c'est ce que Dieu a fait le jour où vous êtes convertis? Il a inscrit sa parole dans votre cœur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le jour où vous avez livré votre vie au Seigneur, le jour où dans l'humiliation, la repentance et la foi, vous avez saisi la grâce de Dieu, quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit vous a rendu capable de vivre en harmonie avec les exigences divines. Oh, quand on regarde la vie chrétienne de l'extérieur, bien des gens disent, oh, mais ça doit être terriblement compliqué, terriblement contraignant. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, il faut faire ceci, il faut faire le reste. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que l'Écriture dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est Dieu qui nous rend capables de mettre en pratique sa parole. Parce qu'il a inscrit sa loi dans notre cœur. Il l'a gravé en nous par son esprit. Et quand nous avons en nous et qui n'en a pas des luttes intérieures, quand nous sommes en confrontation entre notre propre volonté et celle de Dieu, je vous assure que si nous venons dans le Seigneur, en toute sincérité et vérité, lui disant, Seigneur, j'y arrive pas, mais ce que je ne peux pas faire moi, fais-le toi en moi, par ton esprit. Il le fera, alléluia. Parce que ça, c'est la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés. La Sainte Cène exprime également notre espérance quant au retour de Jésus. Amen. Eh oui, c'est ça. Dans Corinthiens, Jésus a dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus revient. C'est une doctrine majeure de l'Écriture. Le retour de Jésus est mentionné plus de 300 fois dans les pages du Nouveau Testament. Son retour est certain, son retour est proche. Et nous, chrétiens, nous devons vivre dans cette attente, ne pas perdre de vue cette réalité. Ça n'est pas simplement une doctrine, c'est une réalité. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et le défi qui nous est lancé, c'est d'être trouvé prêt lorsqu'il viendra. Et pour ses disciples, son retour signifiera deux choses. La première, épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, on n'a pas le temps de le lire. La première, épître aux Corinthiens, chapitre 15, également, vous le vérifierez, nous parle de deux événements conjoints, concomitants. Quand Jésus reviendra, les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui de leur vivant auront été de fidèles disciples de Jésus, reviendront à la vie. Alléluia, je le crois. Vous aussi. Notre corps ne sera pas définitivement abandonné dans la tombe, mais quand bien même il faudrait y passer, un jour Christ revenant dans la gloire rendra la vie à nos corps mortels. Et puis les croyants qui seront vivants au moment de son retour seront enlevés. Tout comme Enoch le fut dans l'Ancien Testament, tout comme Élie le fut aussi dans l'Ancien Testament, des millions d'hommes et de femmes au moment où Jésus reviendra chercher son peuple, seront enlevés sur les nuits du ciel à sa rencontre. Leur corps sera métamorphosé, transformé, et ainsi, nous dit l'Écriture, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et dans la Sainte Cène, il y a aussi le rappel de cette espérance. Jésus revient bientôt. Je suis son enfant, il m'a préparé une place. Et puis, terminons par cela. La Sainte Cène, quand même, c'est aussi l'occasion, et nous l'avons lu, de se juger soi-même. De se juger soi-même. Certes, la Sainte Cène n'est pas un épouvantail. Nous l'avons dit, c'est une source de bénédiction. Là, nous est offert un renouvellement quant à notre vie intérieure. Et nous pouvons nous approprier les effets bénéfiques du sacrifice de Jésus. La guérison du corps, le ressourcement spirituel. Mais cependant, même s'il y a là une bénédiction qui nous est promise, il ne faut pas agir avec désinvolture, sans discerner le corps du Seigneur. Il est question de ceux qui prendraient part à ce repas du Seigneur indignement. C'est quoi ça? C'est quoi ça, prendre part indignement au repas du Seigneur, sans prendre conscience des conditions requises pour y participer? Mon frère, ma sœur, si tu vis dans une situation de péché, je ne dis pas si tu as commis une faute et que tu t'en sois repenti, Dieu fait grâce. Mais si tu vis dans une situation de péché dans laquelle tu t'es installé, que tu tolères, que tu admets, que tu acceptes, dans laquelle tu te complais délibérément, alors si tu participes à la Sainte Cène dans cet état-là, tu participes de manière indigne. Et à ce titre, nous l'avons lu, Dieu est en droit, dans son amour, parce qu'il nous aime, d'appliquer sa sanction, de nous corriger, afin de nous ramener à la raison, pour que nous ne soyons pas finalement perdus. C'est pourquoi c'est avec beaucoup de respect, beaucoup de sérieux qu'il faut s'approcher de la Sainte Cène. Il faut se juger soi-même, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir se remettre en cause, il faut savoir laisser l'Esprit de Dieu sonder notre cœur, afin que si besoin est, il puisse se dire là, il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Il faut que tu prennes la décision de le régler. Et lorsque nous le faisons, Dieu fait grâce. Et lorsque nous endurcissons notre cœur, malheur à nous. Il est question là de ceux qui ont été frappés, et même frappés parfois de mort. Non pas en but, en ayant pour but de nous détruire, mais nous amener à une reddition, à une repentance authentique pour que le salut de notre âme nous soit au moins conservé. Il ne s'agit pas de soupçonner, de dire « Oh, ce frère, oh, cette sœur, voilà, un problème de santé, sûrement que Dieu est en train de lui expliquer le tarif, il a dû faire dans sa vie quelque chose qui n'était pas clair, alors Dieu le corrige. » Non, 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 non,
Il n'est pas question de juger les autres, il est question de se juger soi-même. Se placer sous le regard de Dieu, pour que Dieu nous éclaire. Et Dieu fait grâce. Amen. Dieu fait miséricorde. Il est bon, il est compatissant, il est miséricordieux. Voilà quelques vérités concernant la Sainte Cène que je voulais partager avec vous. Et nous allons maintenant participer au repas du Seigneur. Nous tous qui avons été baptisés d'eau par immersion à l'âge adulte. Et nous allons le faire avec beaucoup de sérieux. Seigneur, nous rappelons ton œuvre à la croix. Voyez, la croix du calvaire, c'est l'événement majeur dans l'histoire de l'humanité. L'événement majeur dans l'histoire de l'humanité, c'est pas le 14 juillet 1789 quand la Bastille a été prise. L'événement majeur dans l'histoire de l'humanité, c'est pas le 6 juin 44 quand les Américains ont débarqué en Normandie. L'événement majeur, c'est que Christ a donné sa vie pour nous sur la croix, afin que nous soyons sauvés. Les choses ne sont pas restées là, il est mort, il est aussi ressuscité. Nous avons affaire à un sauveur vivant. Et s'il revient, c'est parce que justement, il est ressuscité. Nous exprimons tout cela au Seigneur ce matin. Je suis ton enfant, je bénéficie par la foi des effets du sacrifice que tu as accompli en ma faveur à la croix du calvaire, et je commémore cet événement. Christ est mort pour les pécheurs que nous sommes, et je veux le bénir, le louer, l'adorer. Alléluia. On va se recueillir quelques instants, on va prier le Seigneur, et au cours du repas commémoratif de la Sainte Cène qui va suivre, vous qui n'avez pas encore loué Dieu, adoré le Seigneur, faites-le mes amis, exprimez votre reconnaissance. Est-ce si difficile que ça de lui dire merci? Merci parce que tu m'as sauvé. Alléluia. Voulons te rendre grâce, Seigneur. Voulons te bénir. On va demander à notre frère Ram de bien vouloir rendre grâce à Dieu pour ce repas auquel nous participons. Les frères qui ont été désignés s'approcheront pendant la prière d'Aram. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Jésus.